Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Même les socialistes, pourtant opposés à la destitution d'Emmanuel Macron, ont voté ce matin au bureau de l'Assemblée pour la résolution déposée par la France insoumise, ouvrant la voie à des débats.
C'est un événement inédit dans la Ve République qui vient de se produire.
Derrière ce vote auquel se sont joints les socialistes et les écologistes, un objectif martelé par le nouveau Front populaire tout le week-end à la fête de l'humanité, maintenir l'unité.
Des différences programmatiques entre les écolos, les communistes, les insoumis, les socialistes, oui on en a, mais rien n'est insurmontable.
Un discours rassembleur, contredit par cette séquence. Le député de la Somme, François Ruffin, en rupture avec LFI, hué en arrivant à la fête de l'UMA, après avoir accusé Jean-Luc Mélenchon d'avoir abandonné le vote ouvrier au profit d'une approche plus communautariste. L'occasion était trop belle pour le socialiste François Hollande de tacler LFI, et tant pis pour l'unité de la gauche.
François Ruffin dit de l'intérieur ce que nous disons depuis longtemps de l'extérieur, c'est-à-dire une dérive sectaire, brutale, communautariste et surtout une stratégie minoritaire de la part de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon.
L'union sacrée, décrétée après l'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale, est mise à rude épreuve. Pourtant, le NFP s'était fixé un cap le soir de sa victoire aux législatives.
Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme.
Alors pourquoi le NFP, basé sur un programme commun, peine-t-il à maintenir la dynamique unitaire de la gauche? L'hypothèse Bernard Cazeneuve à Matignon a-t-elle fait apparaître au grand jour les premières fissures? Assiste-t-on au retour de deux gauches irréconciliables ou le NFP peut-il colmater les brèches?
Nos trois invités pour ce débat, Aurélien Bélanger, bonsoir, écrivain, dernier roman au cœur de l'actualité littéraire-politique. Les derniers jours du Parti Socialiste est paru au seuil. Et selon vous, Aurélien Bélanger, ce que cherche à faire la France insoumise, c'est de remobiliser les abstentionnistes. C'est un fantasme, ajoutez-vous, de penser qu'il y a une stratégie communautariste au sein de la France insoumise. François Ruffin, enfin, est dans une position caricaturale à ce sujet. À côté de vous, Juliette Méadel, bonsoir madame, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Vous avez été porte-parole du PS de 2014 à 2016 et vous êtes aujourd'hui conseillère municipale à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Donc, selon vous, les insoumis veulent la fin de la gauche de gouvernement. Ils sont la corde qui soutient le pendu. On est en train d'assister à la disparition du socialisme à la Jaurès. Et Antoine Oberdorf, enfin, bonsoir, journaliste politique en charge de la gauche à l'Opinion. Selon vous, la gauche est confrontée à un dilemme stratégique sur la manière de conquérir le pouvoir. Veut-elle ou non s'adresser aux classes populaires acquise au RN, sachant que d'un point de vue électoral, la gauche ne progresse pas, elle stagnerait même à 30%, plus ou moins. On va démarrer ce débat, un état des lieux, hein, en quelque sorte, avec le mot du jour ?
Oui, destitution, hein, puisque c'est le mot de la semaine. Même la procédure de destitution d'Emmanuel Macron lancée par LFI a donc été jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Les socialistes ne s'y sont finalement pas opposés, même s'ils n'ont pas l'intention de la voter. La gauche n'a pas voulu se diviser tout de suite, mais ce n'est visiblement que partie remise. Certains députés NFP, comme François Hollande, ancien président, ne cautionnent pas du tout cette démarche des insoumis. Juliette Méadel, cette ambiguïté, est-ce qu'elle est symptomatique plus largement du malaise de la gauche? Est-ce que vous l'auriez voté, vous?
Franchement, non, parce que je pense qu'en fait, c'est une impasse. Cette destitution, c'est une impasse sur le plan juridique, et puis c'est même une impasse sur le plan politique, parce qu'en fait, l'enjeu maintenant pour la gauche, c'est de montrer qu'elle veut assumer les responsabilités, c'est qu'elle veut s'engager et qu'elle veut contribuer à redresser la France. On est dans une situation épouvantable. Moi, j'aimerais bien qu'on passe beaucoup plus de temps à réfléchir à comment on met en place le rapport de Mario Draghi, comment on lutte contre la pauvreté sur l'Europe, comment on engage le grand tournant pour non pas s'adapter, mais surmonter nos défis climatiques. C'est quand même des sujets majeurs, c'est des sujets de survie. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd du temps avec cette motion de destitution qui, à mon avis, est une rupture nette entre le Parti socialiste et le socialisme de gouvernement.
Aurélien Bélanger, c'est votre avis ou pas? Certains disent que c'est la preuve d'une dépendance même du PS à l'égard de LFI et de Mélenchon.
Alors qu'il n'y ait aucun doute que cette destitution n'aille pas à son terme, j'en suis totalement certain. D'un autre côté, il y a une forte demande populaire peut-être pas directement de démission de Macron, mais le choc institutionnel qui s'est passé cet été a besoin d'une traduction politique, et il est du devoir d'une force de gauche de donner une traduction politique, et ça fera exister au moins cette question, qu'il s'est passé quelque chose d'anormal cet été, et donc quelque chose d'anormal, il n'est pas normal de
La normale, c'est la dissolution ou c'est la non-nomination
la non-nomination
de Lucie Castet,
voilà,
par exemple
c'est deux mois de flottement, la non-nomination de Lucie Castet, donc il n'est pas anormal que la gauche exprime un désaccord.
Mais c'est, pardon, c'est pas normal, mais en fait c'est une stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui veut, et qui lui est tout à fait cohérent avec ses objectifs. Son objectif c'est le clivage, la conflictualité, et c'est d'être le seul candidat de la gauche face à Marine Le Pen. Donc du point de vue de Jean-Luc Mélenchon c'est un joli coup, du point de vue de la France et de la gauche jaurésienne c'est triste.
Antonin Bordon, vous allez réagir, mais d'abord il y a une autre dispute qui a été beaucoup plus notable, hein. Elle vient des propos de François Ruffin, l'ancien député insoumis a accusé explicitement Jean-Luc Mélenchon de mener une stratégie communautariste en visant notamment les banlieues, au détriment des classes populaires, des classes moyennes dans leur ensemble. Ces déclarations ne sont pas passées chez les insoumis. Écoutez l'eurodéputée Manon Robry.
François Ruffin parle de la France en entier. Pour faire la France en entier, il faut la gauche en entier. Et la gauche en entier ne doit pas abandonner son ADN de lutte contre le racisme. Et penser aujourd'hui que le vote d'extrême droite est uniquement un vote sur les questions sociales et ne porte pas en filigrane une division de la société en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion, je pense que c'est une erreur de diagnostic qui amène à des erreurs politiques.
Antoine Oberdorf, vous étiez d'ailleurs à la Fête de l'Humanité. Est-ce que c'est la résurgence des deux gauches dos à dos, certains disaient, irréconciliables?
La fameuse gauche irréconciliable, théorisée par Manuel Valls en son temps. Ce qui est certain, c'est que la gauche unitaire, et en particulier le Nouveau Front Populaire, a tout fait pour les conjurer. La mystique unitaire à gauche est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est la condition pour toute conquête du pouvoir. Maintenant, ce que pointe François Ruffin, et la plus exactement la controverse entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, c'est un rapport aux classes populaires. Et ce qui est assez tragique, finalement, c'est que, d'une part, on a une France insoumise qui reproche à François Ruffin de faire l'impasse sur les questions d'antiracisme, d'islamophobie, et de l'autre, un François Ruffin qui, à juste titre, à mon avis, interpelle son mouvement, son ancien mouvement plus exactement, sur son rapport aux classes populaires de la France périphérique qui ont basculé au Rassemblement national. Entre ces deux Frances-là polarisées, la gauche se cherche. Or, elle ne pourra pas atteindre un socle électoral majoritaire, déterminant pour arriver notamment à reconquérir le pouvoir si elle ne s'adresse pas à ces deux Frances.
– Vous, vous dites que c'est une revendication légitime de Ruffin. Aurélien Bélanger, vous dites qu'il est caricatural.
Alors, il fait perdre beaucoup de temps à la gauche, il la ramène en arrière, il la ramène à ce débat, les fameuses deux gauches de Manuel Valls, dont on a vu le résultat. En fait, il n'y a pas de gauche, il y a une gauche qui n'est pas la gauche, et puis une gauche qui est la gauche, tout simplement.
Ruffin, il n'est pas de gauche, du coup, Ruffin ?
Ruffin s'achemine vers des territoires assez différents. On entend beaucoup d'éditorialistes de droite analyser les propos de Ruffin en les caricaturant, en disant qu'en fait, il parle de racisme anti-blanc, Ruffin. Bon, je pense pas que Ruffin parle de racisme anti-blanc, mais c'est une interprétation qui commence à dominer. Moi, je pense que Ruffin est dans une caricature gaullienne, d'une vision très 5e République. La société est fracturée, mais par moi, qui communique entre les tours et les bourgs, moi, par moi, ça peut se réconcilier. C'est quelque chose dont on ne veut plus, qui ne sert pas grand-chose, et qui est une posture politique extrêmement périmée, et qui fait perdre l'ADN de la gauche, qui est le progressisme. Ruffin ne pense pas que les classes populaires sont progressistes.
Mais sur son analyse de LFI et de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, assez électoraliste vis-à-vis des quartiers et des racisés, comme on dit.
Il s'agit d'aller chercher, moi je pense plutôt les abstentionnistes, en fait, parce qu'on a toujours une vision tronquée du jeu politique, parce qu'on n'a pas les abstentionnistes. Donc on arrive à cette idée, par exemple, que la France est plutôt à droite, voire d'extrême droite. On a vu au moment du nouveau Front Populaire, quand il s'est agi de faire obstacle à une élection possible de Jordan Bardella, qu'en fait, la gauche a plutôt gagné la bataille d'opinion, alors qu'on pensait que la gauche était très loin.
Juliette Méadel.
Ce qui me dérange profondément dans cette nouvelle vision de la République qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'avant, il n'était pas communautariste, c'était un vrai républicain et un vrai laïc, moi je l'ai connu il y a 15 ans, ce qui me dérange, c'est que ça part du principe que la société française se découpe en tranches de saucisson.
Ça, c'est l'analyse de Ruffin, c'est pas celle de Mélenchon.
Et je trouve que l'analyse de le positionnement communautariste de Mélenchon aujourd'hui fracture la République. Et quand Ruffin le pointe, alors on peut regretter qu'il ne l'ait pas fait avant, quand Ruffin le pointe, il a raison. Je trouve que ça amène à du conflit, ça amène à de la destruction, ça amène à de l'opposition, et c'est desservir les classes populaires qui n'ont pas envie de se sentir identifiées à une origine, que ce soit une origine religieuse ou une origine sociale ou autre.
Je pense que dans ce débat, on confronte deux choses. Vous parlez de communautarisme, on ne sait pas ce que c'est un terme qui a été lancé par la droite pour disqualifier la gauche il y a 20 ans, c'est toujours ce qu'on dit. En fait, qu'il y ait du clientélisme, oui, il y a du clientélisme, mécanisme électoral, c'est comme ça que fonctionnent les partis politiques.
Mais ça, c'est une erreur profonde.
Il ne faut pas passer du... Non, non, c'est une erreur profonde, c'est comme ça qu'on fait de la politique depuis le début.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Il ne faut pas passer du clientélisme au communautarisme.
Le clientélisme aujourd'hui est une plaie pour la République. Le communautarisme en est une aussi. On doit lutter contre toutes les discriminations. Oui. Pour lutter contre toutes les discriminations, on ne distingue pas selon les religions. On part du principe que vous êtes un citoyen et qu'on ne doit pas s'intéresser à vos origines, on doit vous préserver des discriminations. C'est pas la même chose.
Est-ce que vous y voyez deux stratégies opposées radicalement ou pas, vous ?
Oui, là, en l'espèce, elle s'oppose frontalement. Et aussi, il ne faut pas être naïf, parce qu'il y a un enjeu pour François Ruffin à poser un leadership sur la route de 2027, parce qu'il sait que Jean-Luc Mélenchon a énormément d'avance. Ça, il ne faut pas être naïf là-dessus. En revanche, sur le fond, à savoir la vision de la France qu'on se donne, et là, j'aimerais juste qu'on sorte un instant du piège identitaire, en fait, qui consiste à, d'un côté, avoir les chantres du communautarisme ou les théoriciens du communautarisme, et de l'autre, les adeptes, finalement, de l'universalisme. Ce qui est vrai, personne ne renonce à la conquête des classes populaires. La question, c'est comment on va les chercher, comment on va les mobiliser. Aujourd'hui, on a théorisé à la France insoumise, notamment autour de Manuel Bompard, un des stratèges de la France insoumise, une volonté d'aller chercher des segments électoraux sur la base d'affect. Ça a fonctionné, c'est indéniable aux élections européennes. La cause palestinienne en particulier a ramené dans les cités de ce pays auprès de la jeunesse 1 million de voix supplémentaires entre 2019 et 2024 si vous comparez les élections européennes. En revanche, point fondamental, c'est de savoir si lorsque l'on parle de la cause palestinienne, lorsque l'on parle d'islamophobie, d'antiracisme, de violence policière, est-ce qu'on s'aliène des soutiens dans une autre partie de la population et dans une France polarisée? Je pense que c'est à cette question-là qu'il faut répondre.
Alors, qu'est-ce que vous répondez, Aurélien Bélanger? Est-ce que ça, de fait, est-ce que la gauche ne s'aliène pas une partie de son électorat en se focalisant, par exemple, sur la guerre à Gaza,
qui pense notamment qu'il est de gauche et qui n'est plus à gauche depuis longtemps, et c'est pas grave de s'aliéner cet électorat?
Ah bon? Et j'admets Adèle.
Les gens qui pensent qu'il n'y a pas de violence policière ou qu'il n'y a pas de racisme structurel n'ont rien à faire à gauche.
Et ceux qui pensent qu'il faudrait faire quelque chose pour lutter contre les inégalités sociales, économiques?
Ceux-là sont à gauche.
Mais c'est précisément contre ça qu'il faut lutter, c'est-à-dire contre cette façon totalement sectaire de considérer la vie politique et de délivrer des brevets de ci, de ça et de gauche. Et précisément ce qu'est devenu aujourd'hui, ce que sont devenus les insoumis, c'est ce que vous incarnez.
On ne parle pas des insoumis, on essaie de parler du Nouveau Front Populaire et d'une gauche unie.
On ne peut pas mettre dans le même sac les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste et les Insoumis,
pas,
à mon avis.
Ils ne sont, à ma connaissance, pas divisés encore.
Aujourd'hui, l'orientation du NFP, elle est donnée par Jean-Luc Mélenchon. Elle est donnée sur une orientation de clivage sur les origines. Et cette orientation-là n'a aucun succès dans la population. Si vous comparez juste les résultats électoraux des élections européennes en 2019 et en 2000 et les dernières, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le total gauche est le même. Donc, la stratégie de Mélenchon ne fonctionne pas.
Alors, avançons s'il vous plaît, parce qu'il y a des enjeux pour la gauche ou les gauches, notamment la niche parlementaire du RN.
Oui, le 31 octobre prochain, les députés RN vont faire examiner une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites dans le cadre donc de cette niche parlementaire. Le RN souhaite donc revenir à un âge de départ à la retraite à 62 ans maximum avec 42 annuités au lieu des 64 ans actuels. Et Marine Le Pen compte aussi proposer un départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans sous réserve d'avoir un nombre suffisant de trimestres cotisés. Mais là où ça se complique pour la gauche, c'est que l'abrogation des retraites, c'est vraiment la mesure phare du NFP, défendue depuis des mois. Eux aussi veulent abaisser l'âge de la retraite à 62 ans dans un premier temps, puis à 60 ans d'ici 2027. Mais ils préféraient le faire sans avoir à serrer la main du RN. Et pourtant, si on additionne les voix du RN et celles des quatre groupes de gauche, on arrive à 335 voix, majorité absolue. Et donc, on pourrait abroger la réforme des retraites rapidement. Fabien Roussel, qui est donc le leader du Parti communiste, a annoncé ne pas être fermé à voter cette loi du RN dans un souci de cohérence. Pour LFI, c'est inenvisageable. Éric Coquerel, lui, a fait savoir que LFI proposerait sa propre loi d'abrogation lors de sa niche parlementaire fin novembre. Et quant au PS et aux écologistes, eh bien pour le moment, rien n'est franchement tranché. Antoine Oberdorf, est-ce que le 31 octobre, ça va être un crash test pour la gauche ?
Ça va être vraisemblablement un crash test parce qu'ils savent qu'ils ont un piège à déjouer qui est le piège tendu par Marine Le Pen. Ils se seront mis vraisemblablement d'abord en accord à l'échelle de leur groupe parlementaire pour avoir une forme de discipline de vote et de cohérence commune. Mais la question fondamentale, c'est de savoir si dorénavant, la fin justifie les moyens. Est-ce que, compte tenu de la nouvelle donne parlementaire, il faut faire fi de la formation politique dont émanent les textes? C'est une question qui n'aurait pas effleuré l'esprit un instant de tout membre de l'ex-NUPES sous la précédente mandature. Là, les cartes sont rebattues et il va être très difficile pour les députés du Nouveau Front Populaire qui ont véritablement défilé dans les rues pendant des semaines et des semaines, il va leur être très compliqué, en termes de pédagogie électorale, de ne pas voter un texte d'abrogation qui soulagera les classes populaires de deux années de travail supplémentaire.
Juliette Méadel, est-ce que la fin justifie les moyens? Puisque la question était soulevée à l'instant. Est-ce que le PS, est-ce que vous voteriez l'abrogation
de la réforme
proposée par le RN.
C'est là que l'objectif, ça doit être de tout faire pour que cette réforme change du tout au tout. 90% des Français sont contre, donc il faut tout faire. Alors tout faire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut commencer par dire d'emblée, nous voterons l'abrogation, alors même qu'aujourd'hui, personne à gauche ne commence à mettre sur la table des propositions de discussion avec le Premier ministre actuel. Par exemple, dans ses propositions, il pourrait y avoir « Nous voulons revenir sur la pénibilité, nous voulons nous occuper davantage des femmes qui sont les principales victimes de cette réforme, nous voulons retravailler peut-être à l'hypothèse ultérieurement d'un régime de retraite à point. » Bref, ce que je veux dire par là, c'est que là, on a une gauche qui dit non à tout. Tout.
Donc c'est-à-dire la gauche devrait prendre langue avec Michel Barnier.
Mais évidemment que la gauche doit venir discuter.
Sont à discuter.
D'ailleurs, Fabien Roussel l'a dit.
Fabien Roussel aussi.
Marine Tondelier l'a dit. Évidemment qu'il
faut
discuter.
Est-ce qu'il faut intégrer le gouvernement?
Ah non, mais ça, c'est un autre sujet. Ah
bah,
Il faut commencer par avoir un projet politique. Mmh. Un projet politique sérieux pour s'occuper précisément des Français qui ont besoin qu'on les soulage. Mmh. Sur, par exemple, l'abrogation de l'assurance chômage. Oui. Par exemple, sur la modification ou la modification, peut-être l'abrogation des retraites. Par exemple, sur le service public. Pour l'instant, il n'y a rien
mais
sur la
table. Aurélien Bélanger, une gauche, justement, celle que défend Juliette Méadel, peut-être plus constructive, est-ce que c'est une gauche qui trahit ses idées ou pas, forcément?
Alors, pour revenir à la question des retraites, la réponse, elle est très simple. Il me semble que le RN, s'il propose une abrogation des retraites, ils doivent la financer. Et donc, en fait, il suffira de voir comment il la finance. S'il la finance avec l'abolition de l'aide médicale aux étrangers, ça serait très facile de ne pas voter. Donc, il ne s'agit pas, par une question morale, de dire on ne vote pas parce que c'est le RN.
Par principe.
On ne vote pas parce que c'est une mauvaise loi et que c'est une loi profondément injuste. Donc, le piège, en fait, il va être très, très facile à déjouer.
Et sur la participation à une coalition gouvernementale.
Alors, ce qui
c'est inenvisageable. Vous dites
disons
que
la dernière fois que la gauche a été unie à parler d'une voix très très claire où ça c'est. Et je pense, de façon même très populaire, les gens ont vraiment compris de quoi ils retournaient, c'est la mobilisation du mouvement sur les retraites. Donc il ne s'agit pas d'entrer dans un gouvernement et de dire on va faire des ajustements, on garde la réforme, on fait un truc de pénibilité. On ne va pas faire de tambouille là-dessus. Les Français ont exprimé très très clairement dans les rues que cette réforme des retraites, ils n'en voulaient pas et que c'était une loi socialement injuste. Bon, bah voilà, la gauche a juste affirmé ça.
À propos de la gauche au pouvoir, est-ce que la gauche s'est tiré une balle dans le pied en refusant la candidature Bernard Cazeneuve?
Alors c'est intéressant de voir comment le récit sur le fait que la gauche n'aurait s'en prendre qu'à elle-même d'avoir laissé passer le train du pouvoir s'est installé. Mmh. Il a une part de vérité, il faut être honnête. Mmh. On voit la figure de Bernard Cazeneuve, le Parti Socialiste, la direction du Parti Socialiste, notamment Olivier Faure, a mis peu d'entrain, pour le moins qu'on puisse dire, à soutenir la candidature d'un ex-premier ministre socialiste. Pour le reste, ce qui est dommageable, c'est qu'on ne saura jamais si ce n'est pas Emmanuel Macron lui-même, finalement, qui n'a pas voulu des conditions imposées par Bernard Cazeneuve pour une véritable cohabitation avec un Premier ministre de gauche. Y aurait-il eu des bougées sur la question des augmentations de salaire, sur les retraites? Nous ne le saurons jamais parce qu'effectivement, l'hypothèque de savoir si le groupe socialiste, les 66 députés socialistes à l'Assemblée nationale, auraient censuré oui et non Bernard Cazeneuve n'a jamais été levée.
Tiens, je vous propose, pour alimenter le débat, une archive qui remonte à 97. La gauche profite de la dissolution de l'Assemblée décidée. On s'en souvient par Jacques Chirac. Pour revenir au pouvoir, c'est le temps béni de la gauche plurielle. Toutes les nuances de rose, de rouge, de vert.
Premier conseil des ministres, première occasion de tester le style Jospin. Pour la montée des marches de l'Élysée, le nouveau Premier ministre a fait simple et sobre. Juste un temps d'arrêt devant les photographes situés à droite des marches qui se sentaient un peu délaissés. Pour les 26 autres membres du gouvernement, chacun son style. Arrivé groupé pour les communistes, comme en 1981, les marches du palais, c'est un peu comme au Festival de Cannes. Il y a les têtes célèbres, déjà vues à l'affiche, Jean-Pierre Chevènement, Martine Aubry avec son secrétaire d'État, Bernard Kouchner, ou encore Ségolène Royal. 20 minutes de conseil des ministres et tout le monde ressort. Photos de famille improvisées sur le perron, cohabitation oblige, sans Jacques Chirac.
Aurélien Bélanger, ce qui fut possible en 97 ne l'est plus du tout aujourd'hui en 2024.
En tout cas, la gauche s'est retrouvée sur un programme très clair. On se rappelle des 35 heures, qui fut l'une des dernières grandes réformes de gauche et qui reste un très bon souvenir pour tout le monde.
Certains disent que si Jean-Luc Mélenchon
se retirer, se sacrifier en quelque sorte. On pourrait avoir cela. Est-ce que vous pensez que c'est lui le problème ou pas ?
Le problème, c'est la présidentialisation et la Ve République en général.
Juliette Méadel.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation n'est pas du tout la même parce qu'on a une guerre aux portes de l'Europe, qu'on a une crise écologique monstrueuse et que le citoyen a perdu confiance dans la politique. Donc il faut tout réinventer et tirer les leçons, y compris de l'échec de la gauche au pouvoir.
Oui, mais il faut que la gauche s'entende elle-même, non ? Pour pouvoir porter quelque chose.
Il faut que la gauche.
Est-ce qu'elle est capable de le faire ?
Dans l'état actuel des choses, non. Parce que dans ces deux gauches-là, il y a des points, à mon avis, irréconciliables sur la République et sur l'universalisme. Donc cette gauche-là, aujourd'hui, n'est pas en situation de gagner. En revanche, elle doit s'étendre et s'élargir, y compris au centre-gauche, y compris à tous les abstentionnistes qui sont à aller chercher dans les rangs des anciens hollandais et des anciens macronistes. Et c'est avec cela qu'il faut aussi construire.
D'un mot Antoine simplement, je crois que le tout sauf Mélenchon ne peut pas suffire à bâtir un dénominateur commun entre les personnalités de gauche. Sur le fond, les idées, il y a un travail à mener pour une gauche qui s'est laissée scléroser idéologiquement. Aujourd'hui, il y a deux lignes, notamment, qui sont portées d'ailleurs par des gens qui sont un peu en dehors des partis, qui agissent comme des auto-entrepreneurs. D'un côté, Raphaël Glucksmann, plutôt une voix social-démocrate. François Ruffin, une voix sociale populaire, dirons-nous. Ces lignes vont-elles se trouver, converger l'une vers l'autre ? Mais ça ne peut pas être du tout, sauf Mélenchon, ça ne suffira pas.
Aurélien Bélanger, mais alors vous, votre écrit, votre ouvrage s'intitule « Les derniers jours du Parti socialiste », mais vous imaginez tout de même qu'en 2027, la gauche peut exister au travers d'une personnalité, même si vous venez de dénoncer la personnalisation de la Ve République ?
L'action de la personnalité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt d'expliquer qu'une part de la fascisation et de l'extrême droitisation de la société française procède de la gauche, et qu'il était important de le rappeler, et que la gauche fasse une autocritique sur cette question, et qu'il n'y a pas une guerre des deux gauches, il y a la gauche et des gens qui sont plus proches.
D'une gauche, précisément, qui portait des valeurs universalistes que vous considérez comme anachroniques ou incompatibles
aujourd'hui. Une gauche, en fait, on a vu Chevènement, une gauche qui vient de Chevènement, une gauche qui vient de choses qui n'ont pas grand-chose à faire avec la gauche.
Juliette Méadel.
Mais vous êtes la démonstration qu'il n'est pas possible de travailler... non pas avec vos idées que je respecte, mais on ne peut pas se jeter des oukases à la figure et des brevets de gauche, ça ne marche pas. Il faut s'occuper des sujets clés pour les Français, et le problème, c'est que c'est maintenant. On n'a pas le temps de se perdre en distribuant des bons points à gauche ou à droite.
Mais c'est-à-dire, pardon, sur le... On voit que le débat, là, il est-ce que la gauche doit s'élargir ou pas ? En fait, il y a deux avis très opposés.
Ce qu'on peut noter, il y a deux avis très opposés, c'est que si on regarde de l'autre côté du spectre politique, à droite, ils ont beaucoup moins de pudeur de gazelle, pour reprendre une expression mélenchoniste, à s'entendre, quand bien même ils ont des divergences sur le fond. Quand il a fallu faire l'union des droites entre Éric Ciotti et Mme Le Pen, ils n'ont pas dit, nous avons des lignes de fracture irréconciliables sur, d'un côté, le souverainisme, le libéralisme, la retraite. Non, ils ont fait électoralement l'union.
Ça s'appelle du pragmatisme.
Ça s'appelle du pragmatisme.
Merci infiniment.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.